7h50, donc Léa Salamé, votre invitée sur France Inter ce matin, est membre du parti anticapitaliste.
Bonjour Olivier Besancenot.
Bonjour.
Édouard Philippe a prévenu qu'il ne céderait rien à la rue sur la loi travail, alors pourquoi manifester aujourd'hui ?
Ils le disent tous, comme à chaque fois, puis il y en a qui ont dit ça, puis qui ont été amenés à céder, je pense à Villepin et à quelques autres, donc c'est jamais écrit par avance. Il y a une mobilisation qui débute aujourd'hui, elle est importante, pas que par procuration hein, d'ailleurs. Par exemple à La Poste, sur l'ensemble des salariés, il y a plus de la moitié qui sont des contractuels et qui sont directement concernés par ce type de mesure qui concerne chacun d'entre nous et qui consiste à mettre en place un système dérogatoire où finalement, on va donner la primauté aux accords d'entreprise pour retirer tout ce qu'il y a de positif dans les conventions. Il faut que les gens qui nous écoutent comprennent par exemple que ceux qui, dans certains secteurs du privé touche des primes ou un 13e mois, pourront par accord d'entreprise parfaitement ne plus le toucher dans quelques mois, même si ça figure dans la convention. Donc il y a quelques motifs d'être en colère, on va dire.
Il y a des reculs, mais il y a aussi des avancées. La méthode a été bonne, on a été entendu, les branches sont préservées. Qui dit ça ?
Je sais pas.
Jean-Claude Mailly.
Ouais, je le sens arriver. Qu'ils le disent, c'est bien. Faudra juste qu'il réécoute ses propres propos l'année dernière sur la même mobilisation. C'est-à-dire que quand on était contre la mobilisation sur la loi, qu'on était contre la loi El Khomri durant la mobilisation du printemps dernier, que cette fois-ci, on n'est plus dans la rue, c'est un peu étrange, mais c'est pas ça
mais
qui m'intéresse le plus.
Mais moi, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire, il est où l'immense front unitaire contre la loi El Khomri il y a quelques mois ? Aujourd'hui, effectivement, Jean-Claude Mailly et Laurent Berger restent à la maison, mais on sent bien qu'au-delà de ces deux personnes, parce que c'est pas une histoire de personnes, on sent bien que la dynamique, la mobilisation est moindre.
Ouais, alors ça, la mobilisation, on la verra dans la rue, parce que la mobilisation n'était déjà pas hyper unitaire, même le printemps dernier, c'est-à-dire de mémoire, Laurent Berger n'a pas particulièrement battu le pavé au moment de la mobilisation contre la loi El Khomri, et il y a eu des fronts syndicaux divisés et des mobilisations victorieuses dans l'histoire. Ça arrivait par exemple en 1995, au moment du plan Juppé. Donc tout ne se comprend pas par en haut, il y a aussi des mobilisations par en bas. À partir du moment où les organisations sociales et politiques assument leurs responsabilités, je le dis, je le redis, c'est un début. On a un gouvernement qu'il faut prendre au sérieux. Moi, je l'aime pas, soit, mais je le prends au sérieux. Il a une stratégie. On a mis les couverts le printemps dernier, on n'a pas gagné. Donc cette fois-ci, il faut discuter d'une stratégie de lutte au-delà des manifestations. Celle d'aujourd'hui, celle du 21 qu'annoncée et des prochaines initiatives qui sont proposées par exemple, ou pas, j'en sais rien, par France Insoumise.
Alors justement, celle d'aujourd'hui, celle du 21, je ne vous ai pas entendu citer celle du 23, vous êtes dans la rue le 23 à l'appel de la manifestation pour le peuple, comme dit Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est ce que j'étais en train de suggérer, c'était est-ce que oui ou non c'est une proposition unitaire ? Je ne peux pas répondre à cette question, nous on fait une proposition et je profite de votre micro pour la faire, que toutes les organisations, elle est simple, hein, que toutes les organisations politiques et syndicales opposées sur une chose simple à la loi travail se rencontrent au plus vite de façon large et unitaire pour discuter de la suite, c'est-à-dire du 21 et y compris du 23. Donc la question, elle est posée fraternellement à Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il souhaite ou pas faire de cette initiative une initiative unitaire ? Et moi je le dis en toute franchise et en toute responsabilité, on ne peut pas jouer solo dans cette mobilisation, quelles que soient, je dirais, les dynamiques du moment, personne ne peut avoir la prétention d'incarner à lui seul l'opposition au gouvernement et on ne peut pas jouer à qui même me suive. Donc je lui adresse ce message unitaire, est-ce qu'il est prêt ou non à envisager de faire du 23 une initiative unitaire ?
C'est très clair, vous nous dites que vous avez l'impression, le sentiment que Jean-Luc Mélenchon la joue trop perso, trop solo.
Je lui pose la question, est-ce qu'il a l'intention de faire un truc solo ou un truc unitaire ?
Voilà. Lui, il a dit, c'est quelque chose d'unitaire, j'appelle tout le monde, c'est pas une manifestation à l'appel de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, c'est la manifestation
du peuple.
Oui,
j'ai entendu dire, chacun peut manifester avec son drapeau, c'est bien aimable, mais faire un cadre unitaire, c'est un peu différent, et il le sait, et ils le savent. Je dis ça parce qu'il y a déjà des cadres unitaires qui existent, j'ai participé à un meeting unitaire dans lequel était présent, y compris France Insoumise, samedi dernier par Copernic, il y a le Front Social qui existe. L'enjeu, c'est de faire un Front Social unitaire qui discute de tout, y compris avec les organisations étudiantes, puisqu'il y a la rentrée universitaire aussi dans le collimateur. Le gouvernement avait prévu son calendrier pour justement dégoupiller le problème de la rentrée universitaire. Il y a eu ces déclarations sur les APL. Il y a l'idée que l'université serait plus réservée pour tout le monde. Tout ça, ça met aussi un petit peu de sel, de poivre et de paprika sur tout ça. Donc il y a un contexte pour qu'il y ait des mobilisations victorieuses. À partir du moment où on assume nos responsabilités, c'est pour ça que je le redis en effet, faut pas jouer à qui même me suive.
Oui, d'accord. En même temps, il est considéré comme l'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Il a fait 7 millions de voix à la présidentielle. Vous avez fait même pas 2% pour le NPA. Est-ce qu'il n'a pas raison de dire, de prendre en fait, d'incarner cette opposition. Est-ce que c'est...
Mais qu'il y ait une dynamique dans ce camp-là, tant mieux. Mais je le pense sincèrement. Moi, je préfère qu'il y ait une dynamique dans ce camp-là plutôt que dans le camp de Macron. Maintenant, simplement, je vous le dis, en politique, la fortune est capricieuse. Et on vit une crise politique telle que les espaces politiques font qu'il y a des forces sociales et politiques qui peuvent être propulsées sur le devant de la scène en quelques mois et qui peuvent être balayées de cette scène en quelques mois. Donc chacun doit prendre le sens de ses responsabilités. Vous voyez, les rapports de force en politique, ça existe. Si le gouvernement fait passer cette loi qui est une contre-révolution, qui est une contre-révolution dans le domaine du droit du travail, évidemment, il aura plus de points d'appui politiquement vis-à-vis de tous ses opposants, quels qu'ils soient.
Vous dites « je n'aime pas ce gouvernement », et pourtant il y a une annonce d'Emmanuel Macron la semaine dernière en Grèce. Il dit qu'il veut des listes transnationales pour les élections européennes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que l'internationaliste que vous êtes est touché par ça? Il dit « oui, banco, on y va ».
Non, ça ne me touche pas plus que ça, parce que l'internationalisme de Macron, même celui-là, j'y crois pas franchement. C'est-à-dire que l'internationalisme, pour moi, il est lié aux questions sociales et aux projets qu'on défend. Et en l'occurrence, le projet de l'Europe, de ce gouvernement et de Macron, c'est de prendre ce qu'il y a de pire au niveau social et démocratique dans chaque pays pour le faire partager à tous. Et moi, je pense comme beaucoup en tant qu'internationaliste qu'on pourrait se partager autre chose que la misère, c'est-à-dire le meilleur de ce qui figure dans les différentes législations sociales ou démocratiques. Ça fait de moi encore un désaccord, même d'un point de vue internationaliste, avec M. Macron. Difficile de me trouver les points communs avec lui.
Alors que tout le monde s'apprête à célébrer les 50 ans de mai 68, vous, vous préférez célébrer un autre événement, la révolution de 1917, la révolution russe. Que faire de 1917, une contre-histoire de la révolution russe, publiée, c'est ce que vous publiez aux éditions Autrement. Est-ce que vous sentez en ce moment, en France, les germes d'une révolution comparable à celle de 1917?
Non.
Non, malheureusement.
Je suis en grève aujourd'hui, c'est le début d'une mobilisation, mais on est encore loin du compte, et par ailleurs, il n'y a pas de copier-coller à faire. Ceci étant, toutes les crises politiques majeures peuvent réserver des surprises, au-delà des contextes différents. Chez nous, c'est surtout la question sociale qui est présente, mais les questions démocratiques aussi. D'ailleurs, le gouvernement le sait bien. Maintenant, moi, je n'ai pas la nostalgie des événements, simplement, en tant que militant, communiste, révolutionnaire et anti-stalinien, à l'occasion de ce centenaire de la Révolution russe, j'avais envie d'écrire deux, trois choses, deux, trois bricoles à tous les détracteurs de la Révolution russe. Et il y en a qui essayent de finalement de profiter de l'événement pour faire aussi le procès de l'idée qui tue et qui se sont, par exemple, exercés dans plusieurs éditos, plusieurs ouvrages, je pense au livre noir du communisme, à expliquer que finalement le totalitarisme était inscrit
dans les germes de la révolution de 1917. Or, vous expliquez que ça a été dévoyé, que comme souvent, les révolutions, l'idée même révolutionnaire a été dévoyée ensuite.
Mais plus que dévoyée, la première victime, et c'est bon de rappeler qu'en
millions
effet,
de morts, ceux des millions et celles, de morts, le stalinisme.
Ceux et celles qui ont été les premières victimes des goulags staliniens ont été ceux et celles qui, pour des bonnes raisons, ont fait la révolution à Petrograd en 1917.
Qui sont les révolutionnaires aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon, Nuit Debout, les zadistes, vous, qui?
Cela et puis beaucoup plus encore. Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas s'il se définit comme militant révolutionnaire de ce point de vue-là. Là aussi, il faudra lui poser la question. Mais des zadistes, des anticapitalistes, des libertaires, des gens aussi qui sont sans organisation et puis aussi des militants de quartier. Il faudra bien fédérer un jour ou l'autre toutes ces forces-là.
Olivier Besancenot était notre invité. Merci à vous et belle journée.